La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Ginsburg Gingras. Surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Ginsburg Gingras. GinsburgGingras.com/dette.
Dans Bouchard en parle, voici Pierre-Yves McSween.
7h28, Pierre-Yves, bon matin.
Ah, bon vendredi saint. Il fait jamais beau le vendredi saint, hein?
T'as remarqué ça, toi?
Eh oui.
Ah ouais?
Eh oui. Jésus se fait crucifier avec les puis pleut, tu sais.
Ben voyons donc, c'est scientifique ton affaire, là.
Ouais, depuis que je suis tout petit, quand le film de Jésus de Nazareth passe à TV, il fait pas beau.
15h, en passant, c'est à 15h.
C'est à 15h.
Oui, c'est à 15h que Jésus est mort sur la croix.
Mais il va pleuvoir à 15h tantôt aussi.
Mais tu sais que moi, j'ai un petit doute sur notre exactitude de l'heure il y a 2000 ans, juste te dire ça.
Ouais, ben on s'est même trompé sur l'année, là. Jésus est né en moins 3 avant Jésus. Mais ben c'est ça pareil, parce que la date, oui, ils ont la date de naissance de Jésus.
Fait qu'en l'an zéro, il a dit, hey, j'ai une impression de déjà vu.
Ouais, parce qu'il est né moins 3 avant lui.
Aïe,
parce que
c'est bon, ça.
Ouais, selon les historiens.
Puis, as-tu remarqué que quelqu'un qui a 33 ans, son anniversaire de 33 ans, il dit toujours, ah, l'âge du Christ. Mais c'est parce qu'il y a eu 32 avant, 31, 29, 28, le Christ aussi, là.
Oui, ouais. Mais
quand il y a 28, il dit pas l'âge du Christ. Plus.
Tu pourrais avoir l'âge du Christ à 18 ans.
Ouais, ben c'est oui, c'est ça.
Mais c'est 33.
Ouais. Tu sais que les pertes, on peut les reporter 3 années en arrière dans ta déclaration fiscale. Dans le fond, on est inspiré de Jésus.
Bon, revenons au sérieux un peu, là. Oui. Tu veux nous parler d'un investissement de Toyota dans Uber? Qu'est-ce que
ouais,
c'est ça?
Ouais, là, je parle pas du gars qui sort des trophées au gala de la disque. Là, je te parle d'Uber, la compagnie de char. Évidemment, on a la compagnie de taxi. Écoute, Toyota, c'est pas fou, hein, dans le fond. Timing is everything. On est à quelques semaines, mois de l'entrée en bourse d'Uber. Tout le monde s'excite. Il y a des gens qui vont investir là-dedans en disant c'est l'avenir. Parce qu'Uber, dans le fond, son grand coup, c'est d'avoir l'effet de réseau. C'est d'être le premier d'établir un réseau que tout le monde utilise. Donc, le géant japonais avec un investisseur partenaire d'Enzo, dans le fond, dit, on va investir dans la voiture autonome chez Uber. On va continuer à investir. On va continuer dans les prochaines années. Et ça permet de donner une valorisation à une section d'Uber quelques mois avant l'entrée en bourse ou quelques semaines et donc aider à supporter la valeur. Donc, le timing de l'annonce de l'investissement est très bon. Et quand tu regardes Uber dans le prospectus qu'ils ont déposé à la Security and Exchange Commission, tu vois une chose. Ils disent noir sur blanc. Ils disent notre modèle d'affaires a besoin de liquidité, pas de problème, voici notre plan. On offre, des chauffeurs à des gens qui veulent prendre du taxi. En offrant de plus en plus de chauffeurs, ça permet de générer des liquidités parce qu'il y a de plus en plus de gens qui attendent moins longtemps. S'ils attendent moins longtemps, t'as plus d'utilisateurs. Si t'as plus d'utilisateurs, t'as plus de revenus pour les chauffeurs, t'as plus de gens qui utilisent le système et donc, il y a plus de chauffeurs qui sont disponibles pour réduire ton temps d'attente. Donc, tout ça est un effet boule de neige. T'sais, ça va de plus en plus vite, c'est de plus en plus. Donc, Uber réussit à être beaucoup plus performant que l'industrie du taxi dans certains secteurs à cause de l'offre. Toyota va en faire partie, puis un jour, ils se disent, imagine là, tous tes chauffeurs Uber qui t'aident, là. Faisons de la science-fiction. Ouais. Prenons-nous pour Marty McFly.
Okay?
Et tu dis, « Hey Doc, il n'y a pas de pilote dans ta voiture. »« Eh non, Marty, c'est une voiture complètement autonome, tu comprends? » Alors, à ce moment-là, quand on va être dans le futur, t'imagines-tu, il y a des êtres humains qui vont permettre à Uber de se mettre en place. Et si la technologie se rend là, et si on est capable de faire confiance à la technologie, ben Les chauffeurs vont perdre leur valeur, mais ils vont contribuer à rendre Uber dominant.
Hey, c'est quand l'entrée, l'entrée en bourse de Uber, c'est quand?
On sait pas.
OK.
Rumeur, mais tu sais, les rumeurs, ça sert à des fois à faire des ballons d'essai.
OK.
Mais tu sais, Uber l'est passé en 2016 là, de 1 milliard à 2 milliards de voyagements ou de déplacements à 10 milliards en 2018. Parce que là, on rentre dans le transport humain, mais on rentre dans le transport de maintenant Uber Eats, là, donc tu peux commander.
Oui.
C'est un sous-traitant de livraison. Après ça, tu rentres dans la livraison de marchandises, donc Uber Freight. Donc, tu vois, Uber va devenir la plus grande compagnie potentiellement logistique de transport de marchandises et d'humains. Et donc, par conséquent, c'est ça que t'achètes, le potentiel. Même si tu perds 3 millions de façon opérationnelle en 2018, quand t'es l'investisseur qui valorise ça à 100 milliards, c'est parce que tu vois quelque part que on pourra plus le contourner. Ça va être comme peut-être le Amazon du transport. Tu comprends?
Ouais.
Tu transfères le risque et Toyota veut faire partie.
Eux aussi, Amazon, comme Facebook, ont perdu beaucoup d'argent au début, mais ça fait partie de ces modèles-là. Ils prennent de l'expansion, ils perdent, mais à un moment donné, ça devient rentable. Je sais pas si ça va être encore.
C'est comme Pinterest, on tente de faire ça aussi.
Ouais.
Puis la question aujourd'hui, si tu parles à des jeunes, là, pas des jeunes comme toi et moi, Sylvain, là, des vrais jeunes, là, Puis tu leur parles de Facebook, ils vont dire, ah, ça, c'est le réseau social que ma grand-mère utilise. Il y a ça qui est dangereux pour Facebook, tu sais, ça.
Ah ouais, ça a cette réputation-là.
Ben oui, parce que les jeunes, c'est ça, c'est dans une nouvelle affaire.
Ouais.
Fait que là, tu leur parles de TikTok. Ah non, ça, c'est déjà fini. Snapchat, ah, ça, c'est passé, tu sais. Donc, l'effet de réseau qui sert à avoir de plus en plus de monde à parler, eux, ils vont être sur le réseau social que leurs parents sont pas, tu comprends? Donc, Facebook a ce défi-là. La désaffection. Le côté mainstream, donc tout ça, c'est lié à ça aussi. C'est pas parce que t'es performant à un moment donné que tout le monde adhère, tu sais. Oh. C'est la suite à des choses qui est intéressante.
Rien de facile là-dedans. On va parler maintenant de planification fiscale. La grande oubliée des finances personnelles.
Ouais. Ah, ouais, j'ai envie de savoir ce matin, est-ce que vous faites de la planification fiscale, vous?
Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai été porter mes papiers au comptable, là.
Oui, ça, c'est reporter sa fiscalité, c'est le donner. Mais, non, planifier, c'est, tu te dis, OK, dans ma vie, je planifie ma vie de couple, ma vie de maison, mes enfants. Je planifie mon voyage, où je vais aller en vacances. T'sais. Ma game de hockey, mon souper de ce soir. Mais qui s'assoit pour planifier son impôt? C'est-à-dire, comment dans mes gestes quotidiens ou dans mes décisions d'aujourd'hui, je vais planifier ma fiscalité dans 5, 10, 15, 20 ans? Je sais que c'est un peu excessif pour certains. Puis on se dit, ah, c'est les riches qui font ça. Non, pas du tout. La preuve, je donne plein d'exemples de planification fiscale que des gens communs, que le commun des mortels fait. Par exemple, décaisser ses REER. Il y a quelqu'un qui me dit, hey, là, j'ai 66 ans, je devrais-tu commencer à décaisser des REER pour pas les enlever d'un coup ou les transférer dans un fer? Ça, c'est une planification fiscale en fonction de tes revenus. Je dois-tu prendre mon RRQ à 60, 65, 70 ans? C'est pas juste au niveau des liquidités qui est intéressant, c'est au niveau de la planification fiscale. Parce que, tu sais, des fois, t'as le droit au supplément de revenus garanti aussi si tu déclares pas trop de revenus tout de suite. Donc, peut-être que tu dois retirer ton REER avant ou après la période où tu penses l'avoir. T'as un chalet. Tu vas vendre ça quand, ton chalet? Parce que comme c'est ta deuxième résidence principale, est-ce que c'est elle que tu vas exempter d'impôt ou c'est la tienne? Ouais. Laquelle tu vas vendre en premier? Laquelle va prendre plus de valeur? Tu sais, il y a un article dans le journal aujourd'hui qui dit, bon, dans la région métropolitaine de Montréal, il y a une surenchère des maisons, ça n'a aucun sens. Mais c'est bien le fun, là. Mais toutes les liquidités que tu vas avoir besoin pour payer ta maison te force à en sortir de tes placements, te force à en sortir de ton compagnie incorporée, ça te force comme travailleur autonome à sortir des liquidités de ton entreprise. Et sais-tu ce que c'est le Canada? Le Canada t'impose pas sur si t'es riche. Le Canada t'impose sur les liquidités que tu utilises chaque année. T'as une pension alimentaire à payer, oh, ça c'est avec de l'argent net d'impôt, mais faut que tu sortes de ta compagnie pour payer ton ex, donc ça c'est de l'argent. Faut que tu planifies ça, tu sais. Donc, ce qui est fou au Québec, au Canada, c'est qu'on t'impose pas sur le fait que tu sois riche ou non. C'est sur le fait, à cette année, est-ce que tu as utilisé de l'argent?
Ouais. Mais tu sais, les gens, quand on parle de REER, quand on parle de CELI, de la bourse ou d'un immeuble à revenu, tu sais, ça, c'est comme de l'argent. On va faire de l'argent avec ça. Fait que j'ai l'impression que c'est plus attrayant. Les gens vont quand même en parler beaucoup. L'impôt, le fisc, c'est comme, c'est juste dire planification fiscale.
Oui, mais
on dirait que ça nous tente pas. Mais je sais que t'as raison. Il y a plein d'argent à sauver puis à faire. Mon pense moins à ça.
Je te donne un exemple. Moi, j'en ai un bon, là. Moi, j'ai deux immeubles à revenu. Et là, si tu penses pas, tu dis à ton comptable, mettons, donne-moi le minimum d'impôt à payer. Qu'est-ce qu'il va faire ton comptable? Il va amortir ton immeuble. C'est-à-dire qu'il a le droit d'attribuer chaque année une portion de ton immeuble comme dépense. Donc, tu vas payer moins d'impôt cette année. Mais, à la disposition de ton immeuble, par contre, tout ce qui aura été amorti peut être considéré comme du revenu imposable à 100% si le prix de vente est élevé, comme de la récupération d'amortissement. Donc, c'est pas du gain, c'est du revenu. Alors, cette portion-là te sera imposée d'un coup à la disposition à fort taux d'impôt, parce que tu vas être au taux d'impôt maximum. Alors, la question est-ce que tu veux ça? Moi, j'expliquais ça à ma cousine il y a 10 ans, qui avait un triplex. Je dis, tu veux que j'amortisse ton immeuble, là? T'es sûr? Parce qu'à la revente, tu vas m'en vouloir. Ah oui, je vais payer moins d'impôt. C'est correct? Planification fiscale, c'est ton choix. L'argent que tu as maintenant, place-le parce que tu viens de renoncer à de l'argent futur.
Exact.
Un autre exemple. Tu es à Québec, là, mettons, là, tu sais, à Lévis, mettons, là, Saint-Henri de Lévis, tu vas un peu plus loin, là, tu vas dans les terres, puis là, il y a des gens qui ont des terres à bois, des terres agricoles en Beauce. Et puis là, il y a le père qui a 1 hectare, 2 hectares, qui a une terre, tu sais, qui est une terre à bois, tout ça. Et là, il dit, hey, mon fils, je vais te léguer ça quand je vais mourir, tu sais. Fait que toi, ton père décède, tu dis « Wow, je vais aller vivre sur la terre de mon père ou sur la terre à bois ou dans la main. » Et là, tu te rends compte, non, il n'avait pas fait de la planification fiscale, donc il y a 300 000 d'impôts à payer pour te transférer la terre. Mais tu ne gelais pas l'impôt, fait que tu es obligé de vendre la terre. C'est pas ça que je voulais. Ça, c'est Roger. Mais Jean-Claude, à côté, lui, il a fait de la planification fiscale. Il dit à son gars, moi, j'ai fait une petite exploitation de coupe de bois ou ben du sirop d'érable ou peu importe, qui a fait en sorte de catégoriser la terre d'une certaine façon, qui fait en sorte que je vais pouvoir te transférer la terre sans que tu paies trop d'impôts et tu vas pouvoir la garder. Ou mieux que ça encore, j'ai pris une assurance où j'ai mis des placements puis l'impôt à payer sur mes actifs pour que tu les gardes. J'ai prévu les liquidités. C'est fou, hein? Il y a des gens qui pensent léguer de quoi à leurs enfants. Les enfants sont obligés de vendre parce qu'ils n'ont pas fait de planification fiscale successorale.
Merci Pierre-Yves. Bon Salut. Week-end de Pâques.
Bon week-end, hey, les cocos, hein?
Mardi.
C'est gratuit.
C'est... Tu sais, je trouve ça, c'est super intéressant, mais est-ce que je suis le seul à me demander des fois s'ils font pas exprès? De rendre ça tellement complexe que juste ceux qui ont les moyens d'avoir des avocats, des fiscalistes, puis tout ça, ou d'avoir le temps, eux autres, ils s'en tirent. Puis le commun des mortels, il se fait avoir. Puis là, les gens, ah, mais y aurait-tu se renseigner, y aurait-tu s'informer? Moi, là, j'écoute, je prends des notes des fois quand on parle à Pierre-Yves, mais regarde, est-ce que je retiens tout? Est-ce que je
devrais... J'ai un truc pour toi.
Oui.
En as-tu vraiment besoin? Tu diminues les liquidités que tu as besoin, donc tu t'imposes moins, et donc tu as fait une planification fiscale implicite.
Merci.
C'est beau. 7h39.
La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Ginsberg Gingras. Surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Ginsberg Gingras. GingsbergGingras.com/dette.